Comment ça va?
Je respire. L'air est pur, tout est calme. Je me détends.
Fais pour un.
Orange juice with that ice, madame.
Thank you.
L'été comme jamais.
Bonjour à tous, bonjour à toutes. À chaque fois que je consulte une carte en papier, que ce soit en randonnée ou en voyage à vélo, je pense aux endroits dans les plis. Vous savez, à force d'être déplié et replié, la carte s'efface un peu. Et ce sont des territoires qui s'évanouissent. Que deviennent-ils? Où partent-ils? Comme en écho à Henri Michaud et à son recueil de poèmes « La vie dans les plis », je me demande ce que devient la vie dans les plis des cartes IGN. Même chose quand la map monde gonflable de Chaplin éclate dans la scène mythique du film Le Dictateur. J'aimerais savoir quelles régions, quels pays ont été découpés en morceaux. On ne le voit pas précisément dans le film. Voilà, petite obsession personnelle et bénigne, ma foi. Mais chacun, chacune a des histoires de cartes à raconter, des souvenirs, des curiosités ou un attachement. Essayons ce matin de mettre des mots sur ce qui nous relie aux cartes, toutes les cartes, hein, que ce soit une map monde, un atlas, un GPS, Google Maps ou des cartes en relief accrochées dans les salles de classe. La cartographie est une vision du monde. Elle raconte notre rapport au territoire, au pays, à la ville, au quartier. Elle dit notre lien au paysage. C'est parti, se retrouver dans les cartes.
Dorothée Barba sur France Inter.
Avec trois invités en direct jusqu'à 10h, deux sont à distance et un avec moi en studio. Bonjour Christian Grataloup.
Bonjour Dorothée Barba.
Merci beaucoup d'être là. Vous êtes géohistorien, ancien prof de géographie à l'université et aujourd'hui auteur d'Atlas. On vous doit notamment...
Historique.
Atlas, voilà. On vous doit notamment l'Atlas historique de la France et l'Atlas historique mondial, de très beaux et très gros ouvrages aux éditions des Arènes, coédition avec le magazine L'Histoire. Dans l'introduction de votre Atlas historique mondial, l'historien Patrick Boucheron rappelle que le nom qui a été choisi pour désigner un recueil de cartes géographiques vient de la mythologie. Atlas, c'est le malheureux titan condamné à porter le monde sur ses épaules. Sa tâche est pénible, il souffre beaucoup. Est-ce que votre ambition, Christian Grataloup, c'est de faire mentir les raisons pour lesquelles on a donné ce nom aux atlas.
Le titan porte le globe céleste, en fait. Parce que très longtemps, les atlas ont été à la fois terrestres et célestes, parce qu'on faisait une correspondance entre la sphère céleste et la sphère terrestre. Donc on faisait toujours des paires d'atlas. Pas de paires d'atlas, mais surtout de globes. Les globes de Torricelli, qui sont à la BNF, hein, sont vraiment très, très spectaculaires.
Mais ce n'est ni lourd ni pénible de consulter vos atlas.
Ils ne sont pas léger, hein, mais parce que un atlas c'est un inconvénient, faut que le papier soit épais pour pas qu'on voit par transparence.
Ah oui, sinon ça gâche un peu.
Ah
tout.
Oui, oui. Donc toutes les cartes ont nécessairement un papier un peu costaud.
Un autre dingue de cartographie est en ligne avec nous. Bonjour Jules Grandin.
Bonjour Barbara.
Bienvenue, vous travaillez au journal Les Échos comme directeur du service infographie. Vous créez des cartes donc pour illustrer et pour expliquer l'actualité dans le journal Les Échos. Vous partagez aussi votre passion pour les cartes sur les réseaux sociaux. Et vous avez publié récemment un livre qui prouve que vous voyez le monde en cartes, mais aussi en graphique, en histogramme et en infographie en tout genre. Ce livre s'appelle Le bébé graphe. Alors, je ne juge pas, hein, mais je m'étonne, Jules Grandin. Avoir un enfant vous a donné envie, vous a donné des envies d'infographie.
Avoir un enfant m'a donné des envies d'infographie, oui, tout à fait. Alors déjà, c'est un livre que j'ai pas écrit seul, hein, que j'ai écrit à quatre mains avec ma femme, et dans lequel on a chroniqué un petit peu la vie de la première année de notre bébé, à la fois en infographie, mais aussi en carte.
Voilà, on y trouve notamment la cartographie imaginaire des deux premiers mois de la vie du nourrisson, avec le grand désert de la fatigue et inquiétude ville, évidemment. Voilà, le bébé graphe de Clara De Alberto et Jules Grandin, c'est aux éditions Les Arènes. Ma troisième invitée est une navigatrice. Bonjour à vous Isabelle Joschke.
Bonjour Barbara.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous avez participé cette année au Vendée Globe, course en solitaire, sans escale et sans assistance. Vous étiez à la 12e place au passage du Cap de Bonne-Espérance et puis vous avez dû abandonner la course après des avaries sur votre bateau. Mais vous avez tout de même bouclé le tour du monde en solitaire en 108 jours. Comment vous repériez-vous en mer, Isabelle Joschke? Pas de carte papier, j'imagine.
Pas de carte papier, non, mais une carte quand même sur mon écran d'ordinateur.
Jamais de carte au cas où tout plante, si j'ose dire. Jamais de carte papier.
Alors,
au cas où.
Si, tout à fait, oui. On a des cartes à bord, hein, qui sont pliées et qui sont mises sous vide pour justement bien éviter qu'elles soient mouillées. Mais dans l'ensemble, nos bateaux vont trop vite pour qu'on soit capable de se repérer à l'ancienne, tel que le faisaient les marins avant, avec des compas de relèvement, avec un sextant. Et aujourd'hui, les bateaux avancent vite et on a besoin d'être pointé sur la carte, mais en temps réel, vraiment. Donc, les cartes informatiques, ça a dénaturé pas mal de choses, mais ça rend bien des services.
Voilà, vous allez nous raconter quelle relation la navigatrice que vous êtes entretient avec les cartes, que ce soit numérique ou en papier. Les cartes, cette passion dévorante, vous nous racontez, vous aussi, chers auditeurs et auditrices, votre relation avec les atlas, les mapmondes, les GPS, Google Maps, les cartes IGN. Écrivez à la page de L'été comme jamais sur franceinter.fr ou via l'application France Inter.
C'était Billie Eilish sur France Inter. Tournez à droite. À 200 mètres, tournez à gauche. Continuez tout droit sur 500 mètres. Vous êtes arrivé à l'été comme jamais.
Et oui, notre GPS a l'accent québécois, pourquoi pas. Nous parlons cartographie ce matin, les charmes des cartes avec la navigatrice Isabelle Joschke, le géographe, le géohistorien Christian Grataloup et Jules Grandin qui est cartographe, responsable des infographies du journal Les Échos. Christian Grataloup, le GPS est-il une carte comme les autres ?
Oui et non. D'abord, oui, c'est une carte absolument comme les autres. Souvent, c'est la base IGN pour le territoire français. Mais le fait qu'on puisse à la fois zoomer, c'est-à-dire changer d'échelle rapidement dans un sens ou dézoomer dans un sens ou dans l'autre, alors qu'avant il fallait changer de feuille de papier pour changer d'échelle. Et puis on avait des seuils. Enfin, c'était pas, on pouvait pas prendre n'importe quelle échelle. Et d'autre part, le fait qu'on puisse continuer au-delà, qu'il n'y a pas de bord, si j'ose dire. Ça, c'est la révolution essentielle, c'est l'absence de bord.
Il n'y a pas de bord. Il n'y a pas de limite.
Et oui, parce que tous les problèmes, on en parlera peut-être pour le planisphère, c'est qu'il y a des bords.
Jules Grandin, vous estimez vous aussi que le GPS est une carte comme les autres ?
Ben oui, moi je pense que le GPS, c'est au final, c'est une carte comme les autres. C'est, on va dire, c'est la version la plus moderne de la cartographie qu'on puisse avoir. Quoi. C'est-à-dire qu'on a tout ce qui est, on a toute la cartographie qui est accessible dans une toute petite boîte. C'est un peu le savoir cartographique condensé à l'extrême, quoi, si vous voulez, pour moi.
Isabelle Joschke, que vous disiez tout à l'heure que vous utilisez plus de cartes papier en mer hein, parce que ça va beaucoup trop vite et c'est compliqué de faire le point. C'est l'expression consacrée pour les navigateurs et navigatrices sur une carte papier. Est-ce que vous trouvez que c'est une évolution positive ou est-ce que vous êtes un peu nostalgique à titre personnel de la carte en papier, Isabelle Joschke?
Eh ben Dorothée, déjà pardon tout à l'heure pour mon erreur.
Il y a pas de problème.
Petite confusion dans ma tête. Bah écoutez, moi c'est un peu les deux. Moi j'avoue que la carte papier, ça avait vraiment un charme quand je préparais une course et que j'avais encore des cartes papier. Ça racontait une histoire en fait. Et aujourd'hui, tout est fait de manière très immédiate et quelque part on. J'ai juste le temps de regarder où je suis, d'utiliser ma cartographie comme un élément de sécurité, mais j'aime bien regarder une carte et avoir le temps de voir où est passée ma route. Pour moi, ça fait vraiment rêver.
Je pense à la randonnée, notamment la carte en papier sert à ça, à mesurer le chemin parcouru. C'est une histoire de fierté, finalement. Alors, évidemment, le papier est de plus en plus supplanté par les outils numériques, mais vous, Isabelle Joschke, quand vous regardez une carte ou une map monde, vous voyez les trajets que vous avez parcourus ?
Oui, je vois les trajets, et pour moi, la carte, ça vient parler de ça, toutes les traces qu'on peut faire virtuellement en fait sur les océans en fait me concernant, sachant que bah c'est vrai hein, sur un océan on voit rien que du bleu autour de soi et on peut passer de quelque part on peut traverser l'Atlantique de plein de manières possibles et il y a toujours une route qui est plus rapide que les autres quand on fait de la course. C'est la quelque part c'est la plus belle route avec la météo qu'on a à ce moment-là. Et la carte, elle permet de rendre ça qui est très réel, en fait.
Vous avez participé, je le disais, au dernier Vendée Globe. Est-ce que vous diriez que parmi les nombreuses compétences nécessaires pour s'imposer dans une course au large, Isabelle Joschke, qu'il y a aussi la cartographie ? Est-ce que la victoire, parfois, tient en partie à cela ?
Il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il faut être capable de bien connaître sa carte, de bien savoir la lire et l'analyser. Si on fait une erreur, et j'en ai fait beaucoup parce que ça fait longtemps que je fais du bateau, ça se finit mal parce que, en l'occurrence, c'est pour ça que je disais que c'est un élément de sécurité. En fait, quand on navigue très près des côtes, par exemple, la cartographie, c'est ce qui nous permet d'être toujours à un endroit où il y a suffisamment d'eau pour le bateau et pour la quille et de pas s'échouer. Ça, c'est vraiment le premier truc, de passer au bon endroit. Et du coup, savoir lire une carte, c'est primordial, en fait.
Est-ce que vous avez un exemple d'erreur commise en mer qui serait accessible aux néophytes, qu'on pourrait comprendre tous ?
Ah oui, tout à fait. Au départ d'une course, il y a 2 ans, j'ai utilisé sur mon logiciel informatique, j'ai la possibilité d'utiliser 2 types de cartographies différentes. Et j'en ai utilisé une qui est plus interactive, mais où on voit moins bien les cailloux et ils sont pas très bien répertoriés. Et en fait, on avait un parcours côtier avant de prendre le large en direction du Brésil. Et avec mon équipier, on a touché un caillou parce que sur la carte, il était répertorié un peu plus loin que là où on est passé. Et en fait, il y a une erreur entre la cartographie, le GPS et puis l'analyse, disons, du danger. Et ça nous a contraints à l'abandon sur la Transat Jacques Vabre. Donc ça a été dur comme erreur à assumer derrière.
Les erreurs cartographiques, je sais, Jules Grandin, que c'est un sujet qui vous passionne.
Tout à fait, ouais. Les erreurs cartographiques, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup parce que généralement, quand quelque chose est cartographié, alors ça devient la réalité et pour les gens qui regardent la carte. Et s'il y a une erreur sur la carte, à ce moment-là, il va falloir aller sur le terrain pour prouver que c'est une erreur. À partir du moment où c'est mis sur la carte, ça revêt une sorte de réalité et il va falloir ensuite prouver que c'est faux si jamais on en repère une.
Il y a de magnifiques histoires dans l'histoire de la cartographie, il y a de magnifiques épisodes d'erreurs, Jules Grandin.
Tout à fait, ouais. Il y en a plusieurs qui sont... C'est un peu ma petite...
Notre marotte.
À moi. Exactement. Une qui m'intéresse, que j'aime beaucoup, c'est celle de l'île de Californie, où pendant longtemps, sur les cartes, on représentait la Californie comme une île, puisque les gens qui étaient allés jusque-là, en fait, ils s'étaient trompés avec la péninsule de Basse-Californie, qui est séparée du continent par un très gros bras de mer. Et du coup, ils voyaient la Terre au loin et ils se sont dit, bon, bah, c'est probablement une île. Donc, ils ont cartographié la Californie comme une île. Et ce qui est super intéressant, c'est que c'est ce que je disais tout à l'heure, à partir du moment où la Californie est cartographiée comme une île, si on veut prouver que c'est pas une île, il va falloir vraiment le prouver. À partir du moment où c'est mis sur la carte, vraiment, ça fait autorité.
Dites, c'est encore loin, l'Amérique ?
Jamy, je crois que j'ai mis la main sur une mine de cartes de MapMonde et de Globe. Tu sais où je suis, là ? À la Bibliothèque Nationale. Il y a une collection de plus de 600 000 cartes et il n'y en a pas deux qui se ressemblent. Regarde un peu celle-ci, elle est magnifique. C'est la carte qui aurait pu servir à Christophe Colomb pour découvrir l'Amérique à la fin du 15e siècle. Ça paraît logique ici, il indique l'Afrique, l'Europe, l'Asie, mais il n'y a pas encore l'Amérique. Tiens, viens voir, un globe du 15e siècle, l'Afrique est un continent énorme, ici l'Asie est un continent énorme, et entre les deux, il n'y a pas l'Amérique, il y a un seul océan.
Extrait de l'émission C'est pas sorcier. Christian Grataloup, effectivement, les erreurs cartographiques sont un pan important de votre discipline, la géographie.
Alors, il y a tout un type d'erreurs. Il y a d'abord des mensonges. Il y a eu toute une carte des cartographies géopolitiques. L'Union soviétique en a énormément produit. Mmh. Mais elle n'est pas la seule. Pendant longtemps, l'île Longue, où la base des sous-marins nucléaires français dans la rade de Brest, était une île toute blanche où il n'y avait strictement aucune topographie, aucune indication. Enfin bon,
pour des raisons de
sécurité
d'anonymat.
Nationale. Mmh, voilà. Bah, donc, il y a ces choses qui sont volontaires. Il y a aussi des erreurs logiques. La base Californie en fait partie. Hein. C'est-à-dire, on pensait effectivement que, parce qu'on s'était enfilé dans le golfe, que la presqu'île ne correspondait pas, ne se rattachait pas au continent. Donc on l'a longtemps cru parce qu'on n'a pas été beaucoup plus au nord. Le plus beau, ça a été le continent antarctique parce que très 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 longtemps, on a dessiné sur les cartes jusqu'à la fin du XVIIe siècle un énorme continent antarctique parce qu'on pensait que c'était comme dans un culbuto le contrepoids pour que la Terre reste en haut, enfin que le reste bien axé avec un haut et un bas. Il fallait qu'il y ait un énorme contrepoids et que l'hémisphère nord soit plus léger que l'hémisphère sud. Bon, après, avec Newton, on s'est dit non, ça marche pas comme ça. Le point le plus bas, il est au centre de la Terre. Donc, ça, on n'a plus besoin de ce contrepoids. Mais on l'a dessiné pendant au moins deux siècles.
Alors, j'aurais tendance à y mettre le mot erreur, mais sans doute est-ce plutôt une différence d'appréciation. On est souvent émerveillé par l'immensité du Groenland sur une carte, Christian Grataloup. Cette impression d'immensité est le résultat de la projection de Mercator. Ça mérite une explication. Qu'est-ce que la projection de Mercator ?
Alors, c'est Mercator est un cartographe flamand de la fin du XVIe siècle et c'est les cartographes flamands, il n'est pas le seul, qui ont codifié un peu notre vision du monde, notre planisphère avec son milieu, son haut, son bas, enfin, et ce grand continent antarctique. Mercator a inventé effectivement une projection où tous les parallèles sont parallèles les uns aux autres, ça c'est normal, c'est ça. Mais tous les méridiens sont perpendiculaires à tous les parallèles, à commencer par l'équateur, et donc sont parallèles entre eux en géométrie plane élémentaire. Ce qui veut dire que deux parallèles ne se rejoignent qu'à l'infini. Donc le globe, le pôle nord et le pôle sud sont des points infinis. On peut pas les représenter, alors qu'ils existent bien sur un globe en trois dimensions.
Donc c'est vraiment le résultat, cette impression de taille démesurée du Groenland, c'est le résultat de mettre à plat quelque chose qui n'est pas plat.
Ben, tout à fait, c'est impossible. Le pire problème n'est pas celui-là, d'ailleurs, c'est le fait d'avoir des bords. Mais néanmoins, c'est vrai que ça déforme. Alors, on dit que ça déforme les hautes latitudes. En fait, ça les déforme toutes, elles ne sont pas proportionnellement bonnes les unes par rapport aux autres.
Un exemple frappant de déformation.
Le Groenland, c'est l'exemple typique, il fait le quart de l'Australie, et c'est exactement l'inverse.
Le Groenland fait le quart de l'Australie.
Voilà, et c'est l'inverse. Hein, sur l'Inde apparaît sur un Mercator à peu près de la taille de la France, alors qu'elle fait 7 fois la France. Et pourtant, la France n'est pas aux très hautes latitudes, hein, mais aux moyennes. Donc, oui, ça pose problème. Mais il n'y a pas de bonne projection. On a, dans les années 70, on a voulu corriger ce truc de Mercator, parce que le reproche qu'on lui faisait, c'est que ça sous-estimait la zone intertropicale, les basses latitudes, donc les régions pauvres du monde. Donc les pauvres, on a l'impression qu'ils étaient peu nombreux, comme l'Inde, que je le disais, comme je l'évoquais par rapport à la France. Alors, donc on a fait un calcul proportionnel et mis en surface. Alors ça donne des choses bizarres, c'est que cette fois-ci, les tailles sont bonnes, mais les formes ne le sont plus. Donc vous avez une Inde extrêmement étirée, et au contraire, une Russie complètement aplatie. Il n'y a pas de bonne projection. Il y a que de ce point de vue-là, on peut dire que toutes les projections sont fausses.
Il n'y a pas de vérité.
Mais si, toutes sont prêtes aussi. C'est-à-dire qu'il faut en fait utiliser différents types de projections. La seule bonne, c'est le globe à trois dimensions. Alors, la map monde.
Ce problème de forme et de dimension, c'est un désastre pour la navigatrice, Isabelle Joschke. À qui se fier ? À quoi se fier ?
Tout à fait. Mais c'est marrant parce que vraiment cette histoire de déformation, moi je ne l'avais pas anticipée avant de prendre le départ du Vendée Globe. Et quand je me suis retrouvée dans le Pacifique Sud, je faisais cap vers le Cap Horn, donc pour moi j'allais vers l'est, et juste vers l'est, donc je devais faire cap à peu près à 90 degrés. Et quand je traçais une droite sur ma carte, eh ben en fait je faisais du sud-est et non pas de l'est. Mais moi je le voyais pas sur ma carte Mercator.
Ça donne le vertige.
Oui, mais moi j'ai été déboussolée parce qu'à un moment donné je ne savais plus et je me suis dit, en plus j'étais fatiguée, vous imaginez.
Oui, on imagine un peu.
Donc à un moment donné j'ai dit bon j'arrête de réfléchir, je m'en fiche, je crois ce qu'il me dit et j'y vais quoi. Mais j'ai été vraiment perdue, oui, par cette déformation.
Une auditrice a appelé le standard de France Inter, on va la prendre en ligne. Bonjour à vous Yvette.
Oui, bonjour.
Bienvenue. Vous aimez les cartes ?
Oui, j'aime les cartes. Et lorsque j'ai déménagé, j'avais un carton avec des cartes IGN. Et j'étais dans le tri, mais là, je ne me résignais pas à les jeter. Donc, je les ai gardées. Et quand je veux écrire à des amis ou écrire tout court, je photocopie ces cartes-là sur un format A4. Et j'écris à l'envers. Et comme ça, je partage le... C'est le voyage immobile que j'envoie à mes amis, que je partage avec mes amis, parce qu'en général, je leur envoie, recto, verso, etc., je leur envoie le morceau de pays, d'endroits que j'aime et que je veux partager avec eux.
Merci beaucoup pour cette très belle idée. Je vais vous l'emprunter, si vous m'y autorisez, Yvette. Très bonne journée à vous à l'écoute de France Inter. Ça plaît aussi à Christian Grataloup.
Oui, il y a un exemple très célèbre, c'est qu'on a cherché un petit mot qui s'appelle « vœux ». Et donc, on a pris l'extrait de la carte IGN qu'on a photocopié. Ça fait la carte de vœux qu'on peut envoyer à Noël. Voilà.
Pour souhaiter, évidemment, une bonne année à tout le monde. Jules Grandin, est-ce que c'est une passion de niche, à votre avis, la cartographie? Ou est-ce que vous avez l'impression que vous appartenez à une foule immense, la foule des gens qui aiment les cartes?
Alors moi, j'ai tout à fait l'impression d'appartenir à une foule immense. Mais je pense que je suis un des rares à en avoir conscience. Parce que ce dont j'ai l'impression, c'est que tout le monde aime les cartes, mais que les gens ne le savent pas forcément. En revanche, si on commence à leur parler cartes et à leur expliquer des histoires, et ben souvent les gens font « mais moi j'adore les cartes, et quand j'étais petit j'aimais beaucoup les cartes, et j'adore, et les cartes papier, et ça me rappelle les voyages en voiture quand j'étais petit, et le voyage immobile », c'est très belle formulation de votre auditrice tout à l'heure. Et du coup, ce dont j'ai l'impression, c'est que vraiment tout le monde aime les cartes. Après, les gens ne le savent pas forcément.
Voilà, et on est là pour leur dire ce matin. Voici ce que nous écrit Emma. Avant chacun de nos voyages, mon mari et moi partons avec enthousiasme et excitation acheter une carte du pays choisi. Voyage avant le voyage, nous l'affichons sur le mur du salon, telle une carte au trésor. Nous dessinons notre aventure au fil des reliefs, des villes et des cours d'eau. Nous l'emmenons avec nous et la conservons ensuite avec toutes nos petites annotations comme un merveilleux carnet de souvenirs.
L'été comme jamais. Dorothée Barba.
Ce que les Français veulent.
que les Français veulent. C'était Gatien sur France Inter. Nous parlons cartographie ce matin dans l'été comme jamais avec Jules Grandin qui est cartographe, Christian Grataloup qui est géographe et historien, géohistorien, je n'arrête pas de me mélanger les pinceaux, et avec Isabelle Josch qui est navigatrice qui a participé au dernier Vendée Globe. Une auditrice nous demande s'il existe encore des endroits sur Terre qui ne sont pas encore répertoriés, qui ne sont pas cartographiés. Christian Grataloup.
Beaucoup, sous l'eau.
Le fond Isabelle Josch, qu'on parlait tout à l'heure.
Le fond des océans.
La profondeur des eaux.
Voilà, on connaît, ben là encore c'était tout proche du littoral, mais à moins 4000 qu'il faut la profondeur moyenne des fonds, et puis évidemment dans les grandes fosses, on connaît moins bien. Alors évidemment depuis les radars, les sonars, dans les années 1940, on commence à avoir fait ça bien, c'est comme ça qu'on a pu comprendre la tectonique des plaques, mais néanmoins on a quand même une grande ignorance de ce qu'il y a au fond des mers. Donc il y a du boulot là, oui. On connaît beaucoup mieux la carte de la Lune que celle le fond du Pacifique.
Donc il reste des océans, des territoires à découvrir. Ça, c'est plutôt rassurant pour
le... Par ailleurs, il y a toutes les planètes. on a publié des atlas de Mars, maintenant c'est la banlieue Mars, mais il y a quand même, ne serait-ce que dans le système solaire, encore du boulot. Et puis alors, il y a tout l'univers.
Ça rassure, j'imagine, le passionné de cartographie que vous êtes, Jules Grandin.
Ah bah oui, c'est sûr que c'est toujours intéressant de se dire qu'il reste des endroits à cartographier, parce que sinon c'est un peu le grand drame du cartographe de se dire que tout le travail a été fait maintenant.
Il n'y a plus de blanc.
Et voilà, il n'y a plus de blanc sur la carte et du coup aujourd'hui il n'y a plus de territoire à représenter. En revanche, ce qu'on peut faire, c'est représenter des phénomènes et des thématiques sur les cartes.
Alors on peut aussi participer au travail des cartographes avec OpenStreetMap. Beaucoup d'auditeurs et d'auditrices nous écrivent pour en parler. De quoi s'agit-il, Jules Grandin?
Alors OpenStreetMap, c'est une version collaborative, c'est une carte collaborative, c'est-à-dire que les internautes peuvent tracer eux-mêmes des éléments de carte, des routes, des villes, des ports, etc. Et ensuite les mettre en ligne sur OpenStreetMap, c'est-à-dire c'est un petit peu comme le Wikipédia de la cartographie, si vous voulez.
Et alors, est-ce que vous y participez, vous, à titre personnel ?
Alors non, moi j'y participe pas à titre personnel, je l'utilise beaucoup, mais j'y participe pas à titre personnel. En revanche, il y a des occasions dans lesquelles OpenStreetMap a montré toute son utilité. Je pense notamment au séisme en Haïti qu'il y avait eu, et on s'était rendu compte qu'on manquait beaucoup de cartes précises sur Haïti, et du coup OpenStreetMap avait lancé un appel à contribution, et en une dizaine de jours à peine, la base de données cartographique d'OpenStreetMap sur Haïti avait explosé et avait été un grand secours pour les secours, justement.
Est-ce que vous diriez, Jules Grandin, qu'on est en train de vivre une période de mutation cartographique grâce au numérique? Quel est l'enjeu de l'époque, finalement, sur ce sujet?
L'enjeu de l'époque, déjà, c'est de pouvoir se retrouver soi-même, de savoir où on est. C'est ce que ça a toujours été.
Là-dessus, rien n'a changé.
Non, je sais pas si des choses ont vraiment changé tant que ça. Il y a peut-être un enjeu de précision, comme disait Christian Grataloup tout à l'heure, où on peut maintenant, il y a plus d'échelle contrainte. On peut zoomer, on peut dézoomer et on peut toujours savoir où on est. On peut aussi orienter la carte à peu près comme on veut. Mais l'enjeu de...
Allez-y, pardon.
Non, je disais que l'enjeu de la carte, c'est juste de se repérer, quoi. Celui-là, il n'a pas changé.
Mais le numérique a-t-il signé la fin de la poésie cartographique, à votre avis, Jules Grandin?
Une forme de, oui. C'est sûr que la poésie de la carte papier, que pas mal de gens peuvent avoir en tête, c'est plus compliqué de l'avoir sur un GPS ou sur Google Maps. Mmh. Après, le numérique propose aussi, et puis le fait qu'on ait un peu consommé la création cartographique, nous permet aujourd'hui de se lancer dans des choses un petit peu différentes, dans des cartes imaginaires, ou de cartographier par exemple des phénomènes qui ne sont pas géographiques à la base.
Alors d'ailleurs, qu'est-ce que vous voyez, vous, quand vous regardez des nuages, Jules Grandin?
Moi, quand je vois des nuages, bon, je vois pas mal de nuages, je ne vous le cache pas, mais je vois aussi des formes. C'est un petit peu encore un de mes trucs personnels, l'appareil IDOLI, c'est-à-dire de repérer des formes connues dans des formes abstraites, et du coup, repérer des formes de cartes dans les nuages. Ça, c'est quelque chose qui occupe pas mal de mon temps.
Alors voilà, vous mettez ça sur les réseaux sociaux, ça fait des très jolis photomontages. On voit une photo de nuages dans le ciel et puis il place des noms de villes. Donc il a récemment posté une photo de la Bretagne, c'est ça, hein ? On voit Lorient, on voit Brest, on voit Rennes sur ce magnifique nuage. C'est une pathologie peut-être, là, Jules Grandin.
C'est ce qu'on me l'a déjà dit, oui. Et puis c'est pas que des nuages aussi, hein. Les nuages, c'est sûr que c'est ce qu'il y a de plus poétique,
voilà,
et évocateur.
Mais les flaques d'eau aussi.
Ça peut être aussi des flaques d'eau, des taches, une salade, n'importe quoi.
Une salade. Rien de grave, Christian Grataloup.
Oh non, non, pas du tout. Si les cartes font rêver, c'est normal.
À quelle carte êtes-vous attaché à titre personnel?
Oh, moi, je suis surtout attaché à des cartes anciennes. Mm-hmm. C'est parce que je suis un peu historien des cartes. Donc, oui, il y a les cartes d'autrefois étaient nécessairement très chères parce que c'était des gravures. Et des gravures, une planche de gravure, ça s'use vite. Donc, un atlas, c'était le livre, jusqu'au 19e siècle, c'était le livre le plus cher qui soit, un atlas. Parce que, justement, il n'y avait que des gravures. C'est ce qui est rare ailleurs. Et, donc, de ce fait, on mettait beaucoup de soins, non seulement pour la carte elle-même, pour qu'elle soit le plus juste possible, mais là, pour remplir les vides. Les blancs de la carte n'ont été blancs qu'au 18e. Avant, on mettait des monstres, des paysages imaginaires, les monts de la Lune où on pensait que le Nil prenait sa source, etc.
On remplissait le vide avec des décorations,
absolument,
finalement.
Absolument. De même que l'océan. Ouais. On mettait aussi plein de monstres marins dans l'océan, des choses absolument superbes. L'imagination était débordante, là. Et on remplissait aussi le pourtour de la carte avec des personnages. Alors, des personnages qui étaient nécessaires, c'était des petits anges qui soufflaient, qui représentaient les vents. Parce que pour les marins, justement, c'est ce qui compte. Donc la direction des vents nous donnait la direction des caps que devaient suivre les marins. Donc ils étaient représentés sur les cartes et c'est très joli de voir ces espèces de petits putti qui soufflaient l'Alcyon, la Tramontane.
Christian Grataloup nous parle du blanc dans les cartes et moi je pense au bleu dans les vôtres, Isabelle Josch, que quand on traverse l'océan en bateau, en solitaire comme vous le faites, on voit que du bleu sur le GPS, jamais rien autour.
Alors on voit que du bleu autour de nous, ça c'est vraiment un
truc déjà, oui.
Chaleurs, vraiment que l'horizon et ce qui est enfin d'où l'importance de la carte. Moi j'ai vraiment j'ai fait le tour du monde, je n'ai pas vu une seule côte, j'ai toujours vu que l'horizon autour de moi, j'ai à peine croisé un bateau de temps en temps. Et en fait, ce qui me permettait de quelque part de rendre ce que je vivais concret, c'était la carte. Et même s'il y a que du bleu sur la carte, en fait, quand on dézoome, on voit, par exemple, qu'on passe au sud de l'Australie, au sud de la Nouvelle-Zélande, et qu'on va passer le Cap de Bonne-Espérance, et puis le Cap Horn, tout simplement. En fait, ça donne des points d'ancrage, même si on ne voit pas exactement où on passe, parce que moi, j'étais à chaque fois trop loin pour voir les continents, mais je savais où j'étais, et ça me permettait vraiment de me dire c'est ce que je fais, c'est réel et je suis vraiment en train de faire le tour du monde parce que je vous promets, quand on voit que du bleu autour de soi pendant 3 mois, on se dit mais je sais pas en fait où j'étais, est-ce que j'ai vraiment été dans le Pacifique, dans l'océan Indien? Et la carte était pour moi primordiale, c'était vraiment important tous les jours de la regarder. Ça me donnait aussi des objectifs, parce que les mers du Sud, j'y ai passé 40 jours, j'ai eu très très froid pendant 40 jours, et à un moment donné, je trouvais le temps long, et je me disais, bon allez, dans une semaine, j'arrive au Cap Lewin, et ensuite, 5 jours après, je vais passer au sud de la Nouvelle-Zélande. Voilà, ça me donnait vraiment des points d'ancrage.
C'est incroyable ce que vous dites. C'est la carte qui vous rappelle que vous êtes vraiment sur Terre, finalement, qui vous montre la réalité de votre exploit,
oui.
Isabelle Josch.
Oui, c'était tout à fait ça, exactement. Et aujourd'hui, quand je regarde un globe, eh ben je suis attirée, j'ai envie de regarder par où je suis passée. C'est aussi ça qui me rappelle mon histoire, l'histoire que j'ai vécue. Et j'aime retracer juste avec mon doigt. Je suis passée là, puis j'ai fait ça là, et j'ai vécu telle chose à tel endroit. Et pour moi, c'est la carte a un autre goût maintenant que j'ai vécu cette aventure.
Christian Grataloup.
Non, je voulais juste vous demander, quand vous avez doublé le Cap Horn, vous voyez que du bleu?
Alors, je vais vous dire.
C'était de nuit, peut-être?
Au milieu de la nuit,
voilà, c'est ça.
Il y avait une tempête monumentale et aucune visibilité. Donc, c'était, je n'ai rien vu, que du noir et du gris. Et en plus, pour être honnête, je suis passée à 100 000 au sud du Cap parce que la tempête était telle.
D'accord.
Et mon bateau était... en fait, j'avais un problème avec la quille de mon bateau à ce moment-là. Et donc, par sécurité, je suis passée au large. Donc, j'ai bien regretté de ne pas voir la côte au Cap Horn. Ça, c'est vraiment quelque chose dont je rêvais.
Il faudra refaire.
Ouais, c'est ça, exactement.
La cartographie, ce sont aussi des jeux en ligne qui sont parfois addictifs. Je pense à GeoGuessr ou alors CityGuessr. Le principe de ces jeux est plus ou moins le même. Sur GeoGuessr, on est immergé dans des images de Google Street View et il faut déterminer où on est précisément sur une carte du monde. Dans CityGuessr, ce sont des vidéos qui sont proposées. On déambule dans une ville et même chose, il faut reconnaître la ville et ensuite zoomer pour cliquer dans la bonne rue, de la bonne ville et du bon pays. C'est une nouvelle preuve, Jules Grandin, que la passion de la cartographie est très répandue.
Ah oui, tout à fait. Je pense qu'on est encore à fond dans le voyage immobile qu'on évoquait tout à l'heure. Et puis l'imaginaire, en fait, la cartographie, c'est aussi le voyage pour pas cher, si vous voulez. Quand on est sur Google Maps et qu'on active l'option en 3D aujourd'hui et qu'on peut se promener comme ça dans des villes, voir le relief, la topographie, les bâtiments, on a vraiment l'impression d'y être, en fait. Moi, je me promène souvent sur Google Maps et puis il y a des endroits, j'ai l'impression de les connaître, même si j'y suis jamais allé.
Christian Grataloup, la géographie peut être ludique. Ce serait dommage de ne pas s'en apercevoir.
Ah oui, je suis tout à fait un partisan des jeux, y compris à l'école, et des jeux de cartes, mais au sens de notre cartographie, au sens du tarot. Je dis souvent que je fais la lecture de cartes, alors on me demande si je dis l'avenir. Mais c'est vrai qu'avec les cartes, on peut prédire des choses. Oui, bien sûr.
Souvent l'histoire, plus que l'avenir.
Le rapport entre les jeux de plateau. Et la carte, c'est évidemment très très importante, avec le roman aussi, puisque Tolkien, on a l'importance d'avoir des cartographies qui permettent de situer et donner un caractère réaliste, mais un réel imaginaire. Donc ça, les cartes, avec le piège que quand quelque chose est cartographié, on finit par croire que c'est vrai.
Ah oui.
Là, il y a un grand piège. La carte nous donne la vérité, y compris avec les erreurs ou les mensonges qu'on a évoqués tout à l'heure. Et puis dans les jeux, effectivement, on finit par se prendre au jeu et se prendre à la carte, si je veux dire.
Ça rejoint d'ailleurs le cœur de votre travail. Et Jules Grandin, je rappelle que vous êtes chef de l'infographie au journal Les Échos. La carte a-t-elle une plus forte image d'objectivité que les reportages et les articles aux yeux du grand public ?
C'est exactement ce que disait Christian Grataloup à l'instant. Oui, la carte, ça revêt un caractère objectif. C'est sûr que quand quelque chose est... La carte, c'est le réel, en fait. Donc, on a beaucoup de mal à se détacher de ça et à la mettre en doute. Mais oui, la carte, c'est le réel. Quand quelque chose est cartographié, on est sûr que c'est vrai. Et ensuite, après, il va falloir prouver que c'est pas vrai, si on veut.
On a tendance à oublier qu'une carte comme un texte peut être très subjectif.
Mais tout à fait, ne serait-ce qu'avec le choix de la projection dont on parlait tout à l'heure, le choix de l'orientation, le choix du centrage de la carte,
légende.
De l'échelle. Exactement.
Un auditeur à nouveau au bout du fil. Bonjour à vous Serge, bienvenue sur France Inter.
Oui, bonjour.
Alors vous aimez les cartes, évidemment, vous aussi.
Oui, moi je suis un passionné de cartes de par ma formation de géographe, et de par ma formation brevet d'état montagne, puisque je suis accompagnateur en montagne et que je suis sans arrêt sur le terrain avec des clients, avec des marcheurs. Et aussi en France comme à l'étranger. Et j'expliquais que donc, par rapport à ce qui a été dit en début d'émission, que entre la carte papier et la carte numérique, l'avantage quand même pour moi d'une top 25 IGN, c'est-à-dire une carte papier avec tout ce que ça comporte d'informations et de précisions, c'est surtout cette vision globale qu'on a, qui malheureusement, pour l'instant, on a quand même des écrans qui sont limités en termes de surface, que ça soit les portables ou les tablettes, voilà. Et que du coup, même si on peut zoomer, comme vous le disiez très justement, malheureusement, on n'a pas cette vision d'ensemble que moi j'aime bien avoir quand je suis, pour mon métier et en termes de sécurité aussi, d'avoir quand je déploie ma carte au 25 millième sur tout un territoire, c'est toute une dalle que j'ai sous les yeux et qui me permet d'avoir vraiment une vision d'ensemble, et ça c'est très important pour notre métier, mais aussi pour les passionnés des cartes et des paysages.
Après c'est un casse-tête pas possible pour la replier quand on a tout déplié, mais vous
non,
avez...
c'est une habitude.
Voilà, vous m'apprendrez peut-être. Merci beaucoup Serge pour votre intervention. Christian Grataloup, la superficie effectivement n'est pas un détail en la matière.
De la taille de la carte, papier. Oui, plus elle est grande, plus on voit de choses et plus elle est difficile à replier.
Encore cette histoire de bord.
Voilà.
Les bords.
Mais, et bien évidemment, j'étais la semaine dernière au festival de lecture de Lectour. Évidemment, j'ai acheté les deux top 25. parce qu'elle était exactement à la charnière de deux cartes. Ça marche à tous les coups.
Vous avez combien de cartes? Vous êtes un collectionneur de cartes?
J'aimerais collectionner des cartes anciennes, mais c'est fort cher. Comme justement, elles étaient déjà chères à l'époque et qui n'en subsistent pas beaucoup. Mais oui, j'ai énormément de cartes et surtout énormément d'atlas, parce que c'est plutôt les livres de cartes, moi, mon truc. Ce qui est pas tout à fait le truc de terrain, mais évidemment, j'ai beaucoup de cartes, y compris de cartes de terrain.
Vous connaissez sans doute ce livre, Christian Grataloup, Atlas des mondes imaginaires aux éditions EPA, de l'île au trésor à la terre du milieu. Évidemment, les romans, les séries, les films, ils sont truffés de territoires qui n'existent pas, mais qui peuvent être cartographiés.
Oui.
Ça, c'est quand même un... L'imaginaire galope quand on consulte une carte pour de faux, si j'ose dire.
Oui, l'utopie de Thomas More, si on peut remonter plus longtemps. Oui, c'est vrai que l'imagination, c'est aussi à utiliser ce mode d'écriture en lui donnant un caractère de plus grande vérité. Il y a un côté réaliste au sens romanesque du terme. Mais les cartes sont la limite entre la carte réelle et la carte imaginaire est souvent floue. Pensez à l'Atlantide, on y a cru, en tout cas certains y ont cru. Pensez surtout à la localisation du paradis terrestre, qui a été un grand débat cartographique. Ça fait intéressant parce que où est-il ? Ça vaudra quand même le coup de savoir.
Et la carte du tendre existe évidemment pour de vrai. Isabelle Josque, dans quel océan de fiction rêvez-vous de naviguer ?
Alors, j'ai pas particulièrement là de rêve, mais je sais que je suis très attachée à un tout petit bout de mer. Et que j'adore, en fait, c'est la cartographie qui m'a fait encore plus aimer cet endroit. C'est dans la Manche, et c'est les îles anglo-normandes.
Ah, Chausey, en fait, Jersey.
Oui, Origny. Et j'ai été, en fait, j'y suis allée quand j'ai appris à naviguer, donc déjà il y a longtemps. Mmh. J'ai beaucoup navigué dans cet endroit. Puis j'ai lu Les Travailleurs de la mer de Victor Hugo et puis j'ai regardé la carte qui décrit toutes ces îles, tous ces rochers et tout ça. Et je me rends compte que c'est un endroit qui me fait encore rêver alors que je le connais, mais qui fait travailler mon imaginaire.
La carte, il faut le dire, est très belle. Hein. C'est de la dentelle à cet endroit-là.
Ah, c'est magnifique, ouais.
À quoi ça ressemble pour ceux et celles qui n'auraient jamais vu une carte des îles anglo-normandes, Isabelle Josque ?
Ah, alors il y a plein d'îles. Il y a plein d'endroits, en fait, où il y a des rochers qui sont sous l'eau à marée haute, mais qui sont hors de l'eau à marée basse. Il y a des bouées qui marquent les endroits pour les navigateurs, des bouées pour dire où est-ce qu'il faut passer. Il y a des cartes aussi avec des courants qui indiquent, en fait, même sur la carte du CHOM, il y a les courants qui sont indiqués. Et ça, c'est assez incroyable parce qu'il y a des courants très, très forts entre les îles. Et si bien qu'il y a des passages qui se transforment en rivière ou en torrent en fonction des heures de la marée et des coefficients. Et voilà, il y a tout ça. Et donc, il y a tout plein, en tant que marin, il y a tout plein d'histoires à raconter à cet endroit.
Merci pour cet autre voyage immobile.
France Inter, l'été comme jamais.
Nous avons parlé cartographie avec mes trois invités, la navigatrice Isabelle Josque, le géo-historien Christian Grataloup et le cartographe Jules Grandin. À l'approche de la fin de l'émission, j'ai une dernière question à vous poser à tous les trois. J'aimerais connaître un sujet sur lequel vous avez changé d'avis, Jules Grandin.
Récemment, je pense que j'aurais changé d'avis sur la durée d'une grasse matinée.
Parce que vous avez eu un enfant, peut-être.
Puisque voilà, on vient juste d'avoir notre premier enfant. Et du coup, oui, et le nombre d'heures dont j'avais besoin pour faire une journée efficace aussi derrière. Ça a beaucoup trait au sommeil.
Superfétatoire, le sommeil. Christian Grataloup, sur quoi avez-vous changé d'avis ?
Oh, moi qui fais des atlas historiques, j'ai changé profondément d'avis sur l'idée que avant, il fallait connaître son passé, enfin qu'on portait son passé, tout ce que les mots racines ou patrimoine pouvaient. Et puis maintenant, j'ai tendance à penser que c'est notre avenir qui sont nos racines, que au contraire, c'est notre liberté qu'il faut choisir, et que dans le passé, au contraire, il faut le connaître, mais le prendre comme un ensemble qui donne des possibles, et y compris d'ailleurs les passés qui ne sont pas advenus, mais qui auraient pu advenir. C'est vraiment d'ailleurs pourquoi je fais des atlas, car les atlas historique. Par exemple, sur la France, j'ai fait toute une partie sur l'usage que les Français faisaient de leur passé, mais il y a plein d'autres usages possibles qui sont dans les cartes précédentes.
Donc vous lisez vraiment l'avenir dans les cartes.
Exactement. Mmh. C'est notre avenir, comme on le choisit. Donc ne pas être assigné à résidence, pour une carte, c'est très important, ne pas être assigné à un lieu, à un genre, à un fait social, à une couleur de peau, etc., d'être ce que l'on choisit.
C'est une histoire d'inversion de boussole.
Voilà,
finalement.
Je crois que je ne suis pas le seul à avoir fait ce changement dans le contemporain.
Isabelle Josque, sur quoi avez-vous changé d'avis ?
Déjà, je voulais dire que je suis très touchée et je me retrouve vraiment dans ce changement de vision sur le passé, l'avenir. Et ça vient toucher chez moi aussi la question de la liberté. Donc voilà, je me retrouve beaucoup dans ce que Christian Grataloup vient de témoigner. Et puis personnellement, y a plein de choses sur lesquelles j'ai changé d'avis, mais notamment, qui n'a rien à voir avec notre sujet, le féminisme. En fait, quand j'étais jeune, je croyais que le féminisme, c'était un combat entre les hommes et les femmes. Et du coup, pour moi, c'était pas juste et je me voyais pas comme une féministe. Et aujourd'hui, je me suis rendu compte que c'est pas du tout ça. Le féminisme, c'est un engagement de la part des hommes et des femmes pour plus d'égalité et plus d'équilibre dans notre société.
Voilà, un très beau changement d'avis. Trois jolies réponses ce matin. Un grand merci à tous les trois. Jules Grandin, je rappelle le titre de ce livre, excellente idée de cadeau de naissance, soit dit en passant, le bébé graphe, 150 infographies utiles et drôles sur les 12 premiers mois de la vie de bébé. Voilà, cet homme a transformé sa vie de père en histogramme, en camembert et en graphique. Chapeau pour ça. C'est aux éditions Les Arènes. L'Atlas historique de la France, ainsi que l'Atlas historique mondial de Christian Grataloup sont une coédition, Les Arènes et l'Histoire. Quelle est votre prochaine course, Isabelle Joschke?
Eh bien, pour moi, ce sera la Transat Jacques Vabre, où j'espère, cette fois-ci, je pourrai quitter le Havre sans encombre.
Voilà, on sera avec vous en pensée. Merci mille fois d'avoir participé. Je signale aussi, tenez, l'invention des continents et des océans de Christian Grataloup chez Larousse. Merci mille fois à tous les trois d'avoir partagé votre passion des cartes. Et bonne journée à vous.
Merci à vous.
À bientôt. Merci sur France Inter.
À bientôt.
De la philosophie après les infos avec Charles Pépin qui se dore la pilule sous le soleil de Platon chaque matin. Bonjour Charles.
Bonjour, aujourd'hui je reçois Mathilde Laurent, le nez de la maison Cartier, et avec elle nous nous demanderons pourquoi les odeurs ont cet étrange pouvoir de faire soudain revenir le passé.
Ce sera dans un instant.